à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. L'amitié est une chose importante et il est vrai qu'elle peut prendre bien des formes. Voici l'histoire des deux amis de Bagdad. Quand la ville de Bagdad était encore une ville, quand Bagdad s'appelait encore la cité de la paix, vivaient deux commerçants liés par une amitié profonde. Depuis tout petit, ils étaient amis. Ils avaient joué ensemble dans les rues du quartier, ils avaient été à l'école ensemble, ils avaient ouvert un commerce chacun la même semaine. Leurs affaires étaient prospères et ils se consultaient pour tout, tout le temps. Un jour, l'un des deux décide d'aller s'établir à Bassora avec sa famille pour y faire prospérer ses affaires. Les deux amis se séparent pour la première fois de leur vie. Chacun mène son négoce du mieux qu'il peut. Alors que le commerçant de Bagdad devient de plus en plus riche, celui de Bassora voit la roue du destin tourner et, au bout de quelques années, il n'a plus rien. Il se retrouve avec sa femme et ses enfants dans un dénuement extrême. Ils n'ont bientôt plus de quoi se vêtir, plus de quoi se nourrir. Leur désespoir est immense quand un matin, la femme du commerçant de Bassora dit à son mari « Va voir ton ami à Bagdad, votre fidélité est légendaire. Va lui demander de l'aide, il ne refusera pas. » L'homme a sa fierté, certes, mais il n'a plus les moyens de la préserver. Le lendemain, il s'arme de courage et entreprend un voyage qui le mène jusqu'à Bagdad. Il cherche la maison de son ami et frappe à la porte. C'est le commerçant de Bagdad en personne qui ouvre. Quand il voit son ami d'enfance en haillons, sale sur lui et maigre, il lui claque la porte au nez. Le retour à Bassora est terrible. À la misère est venu s'ajouter le chagrin. La douleur de l'amitié déçue est cuisante. L'homme rentre chez lui et dit à sa femme qu'il attend. « Loin des yeux, loin du cœur. Ceux qui t'aiment quand tout va bien ne te reconnaissent pas quand tu n'as plus rien. » Ainsi, à Bassora, la vie continue avec son lot de soucis. Une nuit, quand tout Bassora dort, on sonne à la porte de notre homme. Inquiet, il va ouvrir. Devant sa porte, une jeune femme voilée de noir tient à la main un sac qui semble très lourd. Elle lui demande de la laisser entrer et, quand elle est chez lui, elle lui dit « Mon mari vient de mourir et il me laisse en héritage de nombreux bijoux de valeur que voici. J'ai besoin d'argent et je ne sais ni à qui ni comment les vendre. Je sais que tu es commerçant. Je te les confie et nous partagerons le produit de la vente en deux parts égales. » Le commerçant se met, dès le lendemain matin, en quête d'acheteurs. À la fin de la journée, il a réussi à vendre tous les bijoux à très bon prix. Quand la jeune femme revient le soir, il lui donne sa part et prend la sienne. La somme ainsi obtenue est importante. Elle lui permet d'habiller toute la famille, d'acheter des provisions pour quelques mois et de tenir un petit étal au marché où il vend des objets à bas prix. La vie va déjà mieux, même si ce n'est pas encore le paradis. Une semaine plus tard, en pleine nuit, il entend frapper à sa porte. C'est un jeune homme qui se faufile à l'intérieur et qui lui dit « À l'occasion d'un pari, j'ai gagné une cargaison de tapis en soie de Chine. Il y en a plusieurs centaines et je ne sais pas quoi en faire, je ne connais rien au commerce. Pourrais-tu te charger de la vente et nous partagerons la somme que tu en obtiendras ?» Le commerçant de Bassora n'en croit pas ses oreilles. C'est la chance qui frappe une deuxième fois à sa porte. En une semaine, il réussit à écouler toute la marchandise. Il partage les bénéfices avec le jeune homme et se retrouve avec une belle somme d'argent. Il fait réparer sa maison, organise un festin pour sa famille et réussit même à acheter une échoppe dans le quartier commerçant de la ville. Il n'a pas grand-chose à vendre, mais il est à l'abri des soucis du quotidien. Il se dit « Merci mon Dieu, la roue tourne de nouveau !» Passe 3 semaines quand, au lever du jour, il entend frapper à sa porte. Un jeune homme entre chez lui et lui dit « Mon père vient de mourir. » Il m'a laissé en héritage un chargement de brocarts, de soie et de tapisserie. Je n'en aurai jamais l'usage et puis il y en a tant. J'ai en revanche besoin de liquidité pour m'établir. Je ne connais rien au commerce. Pourrais-tu te charger de la vente et nous partagerons les bénéfices ?» L'homme de Bassora accepte. Il trouve acheteur et vend à très bon prix. Les bénéfices sont considérables. Aussi, Après avoir fait le partage avec le jeune homme, il se retrouve avec une fortune conséquente. Pour sa famille, c'est la belle vie. Il réussit à acheter diverses marchandises qu'il expose dans sa boutique et ses affaires deviennent aussi prospères qu'avant. Un jour, il va trouver sa femme et lui dit « Maintenant que nous avons retrouvé la fortune et la belle vie, je vais aller à Bagdad revoir mon ami d'enfance et je lui dirai le bien que je pense de lui. » L'homme se met en route, il arrive devant la maison de son ami et frappe à la porte. Quand celui-ci ouvre, le commerçant de Bassora dit « Ne te fatigue pas à me claquer la porte au nez, je suis fortuné et en bonne santé, aussi je ne vais rien te demander. Je ne suis pas venu en ami, je viens mettre un point final à l'amitié qui nous a liés tant d'années. » « D'accord, » répond le commerçant de Bagdad. « Mais avant de clore notre histoire, je te prie de bien vouloir rentrer chez moi une dernière fois. Je voudrais te montrer quelque chose. Après, tu pourras t'en aller. » L'homme de Bassora entre dans la salle attenante. Trois jeunes gens y sont installés autour d'un thé. Quand il lève la tête, il reconnaît les deux jeunes gens et la jeune fille qui avait un jour frappé à sa porte pour lui demander de vendre leurs biens. Saisi, il regarde son ami qui lui dit « Quand tu es venu chez moi la première fois et que je t'ai vu comme un pauvre vagabond, la douleur m'a envahi. Mais mon cœur s'est brisé quand je t'ai fermé la porte au nez. Je ne voulais pas te donner l'aumône comme à un mendiant qui me fait pitié. Je t'ai envoyé mes enfants mettre de la marchandise à vendre. Et tu as refait fortune aujourd'hui, et c'est grâce à ton talent. Tu ne me dois rien, l'amitié est intacte. » On raconte que depuis ce jour-là, leur amitié, ils l'ont cultivée longtemps, longtemps. Et seule la mort a réussi à les séparer.
Thank you.
Voici une deuxième histoire sur le thème de l'amitié. C'est une histoire de Madagascar et elle s'appelle « La petite fille de l'étang ». Vous êtes-vous déjà demandé comment il peut se faire que des êtres de chair et d'os, des êtres comme vous et moi, des garçons et des filles, passent leur existence au fond de l'eau? Moi, je me suis toujours demandé d'où cela pouvait bien venir. Toujours. Jusqu'au moment où j'ai entendu parler de Farah, la petite fille de Madagascar qui avait trouvé un œuf de bœuf. Parfaitement, un œuf dans lequel il y avait un bœuf. Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Écoutez plutôt. Un matin du mois de mai, les trois filles d'un fermier sortent de chez elles pour s'en aller à l'école. Elles en sont à suivre le chemin qui longe le grand étang lorsque l'aînée aperçoit dans les roseaux un nid de poules d'eau. Elle s'en approche et comme il y a trois œufs abandonnés, elle dit « Voilà, nous aurons chacune un œuf. Si nous les donnons un couvée à la grosse poule noire, nous aurons chacune une poule d'eau. » La deuxième, qui a toujours été très gourmande, dit « Moi, je ne ferai pas couver mon œuf, je le ferai cuire et je le mangerai pour mon goûter. » Les deux plus âgées se mettent à se chamailler, tandis que la plus petite, qui n'avait soufflé mot, prend le troisième œuf et le jette dans l'eau grise de l'étang. Aussitôt, la colère de ses sœurs se tourne contre elle. « Mais qu'est-ce que tu as fait, petite malheureuse? Tu as jeté ton œuf à l'eau? Si tu n'en voulais pas, il fallait nous le donner. Moi, je l'aurais mangé. Moi, je l'aurais fait couver par la poule noire. » Mais la petite ne répond même pas. Elle regarde l'œuf qui flotte entre les roseaux. Elle lui adresse un petit signe de la main et lui dit « Revoir, œuf. Je viendrai demain pour voir l'oiseau que tu vas me donner. » Toute la journée, les deux aînés se moquent de la petite et montrent leurs œufs à leur amie en disant « Cette petite cruche a jeté le sien dans l'eau et à présent elle n'a plus rien. » À la fin de l'après-midi arrive ce qui devait arriver. À force de montrer leurs œufs, les deux aînés les laissent tomber dans la cour de l'école. « Vous voyez ?» dit la petite. « Si vous les aviez jetés à l'eau, ce ne serait pas arrivé. Demain matin, vous viendrez avec moi. » Et vous verrez le bel oiseau qui sortira de mon œuf. » Et le lendemain, dès la première heure du jour, les trois sœurs sont au bord de l'étang. L'œuf est toujours à la surface où traîne encore la brume blonde de l'aurore. Il est là, et dans le silence, on entend un petit toc-toc à l'intérieur de la coquille. « Alors, œuf, tu me donnes mon oiseau ?» demande la petite Farah. Et la coquille jaune s'ouvre en deux. Quelque chose en sort qui ne ressemble pas du tout à un oiseau, mais à un bœuf. Et oui, c'est un tout petit bœuf avec ses cornes et son museau. Il se met à souffler très fort en barbotant comme un canard. « Ça alors ?» disent les trois fillettes. Mais elles ne sont pas encore au terme de leur surprise, car le bœuf miniature se met à grossir, 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 pour atteindre bientôt la taille des grands bœufs sauvages qui paissent en troupeau sur tout le plateau. « Vous voyez ?» dit Farah, beaucoup moins étonnée que ses sœurs. « Si vous aviez fait comme moi, vous auriez des bœufs. » Et le bœuf fait oui de la tête, en continuant de souffler dans l'eau pour faire des bulles. « Au revoir !» lui crie la petite. « Je reviendrai en sortant de l'école. »« C'est ça !» répond le bœuf. « Et tu monteras sur mon dos pour te promener dans l'eau. » À la fin de l'après-midi, Farah revient et ses sœurs la voient s'éloigner sur le dos du bœuf qui traverse l'étang où se reflètent les rougeurs du couchant. De retour à la maison, les deux aînés profitent d'un moment où Farah est occupée à ses devoirs pour tout raconter aux parents. « Qu'est-ce que vous chantez là ?» dit le père. « Un bœuf dans un œuf, un bœuf qui parle. Est-ce que vous vous moquez de nous par hasard ?» Les petites savent bien que les parents ne veulent jamais croire ce qui leur paraît extraordinaire. Et pourtant, elles insistent tant et tant que les parents finissent par leur promettre de les accompagner au bord de l'eau dès que Farah sera endormi. Arrivés sur la rive, les parents essaient d'appeler le bœuf, mais tout luisant de lune, l'étang demeure sans une ride. « Vous vous êtes moqué de nous !» dit le père, « et vous serez sévèrement punis !» Mais l'aînée des filles se met à appeler le bœuf. Et parce que sa voix est aussi fraîche que celle de Farah, le gros animal sort de l'eau et s'en vient sans méfiance jusqu'à la rive. Dès qu'il a posé un sabot sur la terre ferme, voilà qu'il se sent pris au cou par la corde que vient de lancer le père. Il a beau se débattre, le père des petites sait très bien comment on doit s'y prendre pour immobiliser un bœuf. Et le pauvre animal se met à crier. « Farah ! Farah ! Viens à mon secours !»« Tu peux crier ?» dit le père qui n'est plus surpris du tout. « Je saurais bien te faire taire. » Et ayant assommé le bœuf avec un énorme gourdin, il le saigne et le ramène à la maison. Le lendemain, apprenant que son ami est mort et que ses parents ont commencé de le manger, Farah s'enfuit en courant jusqu'au bord de l'étang. Là, elle supplie les eaux grises de lui donner refuge. S'avançant lentement parmi les roseaux et les joncs, elle disparaît bientôt. Depuis lors, elle vit heureuse au fond de l'étang, et quelques voyageurs attardés la voient parfois sortir de l'eau pour jouer un moment avec les grands bœufs sauvages qui viennent boire lorsque les hommes féroces sont endormis dans leur maison bien close. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.